je trouve que cette toune de Michel Rivard, ça va parfaitement avec ton sujet, c'est-à-dire celui dont on a parlé hier, mais qui a pas mal évolué dans la journée. Toute la spéculation autour de cette chaîne de magasins de jeux GameStop.
Oui, effectivement, là, il y a encore cette embolie autour du fait qu'il y a une vente à découvert, il y a encore des acheteurs qui vont acheter aujourd'hui, et il y a cette fameuse rébellion, parce que Robinhood et d'autres, disons, applications ou intermédiaires ont interdit ou arrêté certaines transactions sous certaines conditions hier, mettant tout de suite la révolution en place et disant que les grands de Wall Street veulent écraser par des moyens contournés le petit investisseur. Bon, il y a plein de facteurs là-dedans. N'oublions pas que Robinhood est une application. Donc, si Robinhood veut canarder son modèle d'affaires en enlevant de la liberté à ses utilisateurs parce qu'il y a un risque systémique pour son modèle à elle, il se peut qu'il y ait des poursuites, il y en a déjà. Il se peut qu'il y ait une rébellion, mais il se peut aussi que ce soit l'investisseur qui décide d'aller ailleurs. Mais pour l'instant, Robinhood, ça attire des investisseurs qui ne veulent pas payer de frais. Donc, implicitement, ils sont le produit de Robinhood. Il faut qu'ils transigent beaucoup. Il faut leur vendre le fait qu'ils peuvent faire des succès. Et donc, ça prend du volume. C'est comme ça que Robinhood fait de l'argent. Et présentement, je trouve, Paul, c'est une belle situation pour montrer à quel point nous sommes dans une période boursière où il faut se méfier du grand amour de la période actuelle. Parce que ça fait 23 ans, Paul, que je place en bourse. Mon premier 1 000 $, c'était en 1998. J'ai connu la bulle techno, la crise financière, et ces deux moments ont quelque chose de bien en commun. La perte de sensibilité à la prise de risque. Pourquoi des années où ça va bien, des investissements qui performent facilement. Là, présentement, ce qui nous aide pour être investisseurs boursiers, c'est que les taux d'intérêt sont tellement bas pour aider la pandémie que le coût d'emprunt est faible. On n'a pas peur d'augmenter l'emprunt sur nos maisons parce que ça vaut pas cher. Le taux d'intérêt, on est à 1,4, 1,5, 1,6. On prend des marges de crédit. On roule dans le tapis. Le gouvernement nous envoie de l'argent. Et donc, tout ça amène de la liquidité dans le marché qui rend pas l'investisseur très intéressé à aller dans les obligations ou les titres à revenu fixe ou les certificats de pauvreté garantis. Et donc, ça aide lorsqu'il y a un phénomène comme hier, puis à matière, c'est-à-dire voir un titre exploser, à encourager des gens à embarquer dans la patente. Mais le risque, évidemment, c'est que ce titre-là, GameStop, Paul, il s'en va down the drain. Il y a des investisseurs qui vont partir avec l'eau, là. Parce qu'éventuellement...
Ce sont les premiers arrivés qui collectent, là.
Même les derniers, présentement. Tu sais, si t'as acheté hier ou avant-hier, c'est possible que tu revendes plus cher, puis ça se peut que tu revendes plus cher aujourd'hui encore, puis peut-être demain. Mais c'est le jour où la panique va s'installer parce que les short-sellers vont être rendus au bout de leurs besoins. Il n'y aura plus d'acheteurs pour du 300-400$ pour une entreprise moribonde qui vend des jeux vidéo tel un blockbuster des années 90, tu comprends? Et ça va s'effondrer.
Mais on parle beaucoup de cette chaîne-là, le GameStop, mais il y a d'autres. Il y a aussi BlackBerry dont tu nous parlais, je pense.
Oui, AMC Forum. Tout ça a baissé de valeur parce qu'on a stoppé certaines transactions sur certaines plateformes.
Okay.
Et donc, mais Paul, encore une fois, BlackBerry, un modèle d'affaires là, les gens mélangent quand je parle BlackBerry les téléphones, puis BlackBerry la compagnie qui a encore des systèmes ou du consulting et des choses derrière. Et donc, faut faire attention, BlackBerry a une valeur. C'est juste que là, il y a une spéculation autour de BlackBerry, il y a eu Nokia, il y a eu AMC. Il va y avoir encore des spéculations autour de titres. Et il y a un grand sage à qui j'ai parlé, qui travaillait dans le domaine du trading pendant une vingtaine d'années, puis je lui dis, toi, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, écoute, le trading, c'est exactement comme quand tu joues au casino. Si tu es un nouveau joueur, tu as 20 ans, tu rentres avec 100$ au casino puis tu sors avec 1000. Tu as l'impression que tu perdras jamais puis que c'est facile. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Si tu as un succès avec une première tentative, il est possible que tu continues à penser que c'est comme ça. Mais la volatilité de 2020-2021, Paul, c'est spectaculaire. C'est pas usuel. C'est quelque chose qui est vraiment lié à un contexte particulier. Parce que normalement, quand tu fais 5-6% d'une journée, t'es supposé te festoyer. Là, les gens disent « Ah, oh, j'ai acheté hier, j'ai fait 4%, bof. » Hey, on veut du 5-6% annuel au net. Tu fais 4 sur un titre en 2 jours, puis tu te dis encore « Bof, nos attentes sont trop élevées. » À un moment donné, le plancher de danse va se vider.
Un mot également, et c'est une question dans le fond, là. Une banque offre une remise de 5 000 $ sur un prêt hypothécaire. Ouais. Est-ce qu'on doit accepter?
Ben, la banque n'est pas ton meilleur ami. Alors, dites-vous, on me demande ça, et ma banque m'offre de prolonger mon taux d'intérêt sur une plus longue période actuelle. Si j'accepte 5 000 $, je vais le prendre. C'est ce qu'on appelle une remise ou un cashback. La banque fait 1 + 1 = 2. C'est-à-dire, si tu demandes que l'évaluation soit payée, que le notaire soit payé par la banque. Puis que tu demandes une remise de 5 000 $, la banque voit ça comme un coût d'acquisition de client. Mais comme la banque veut une rentabilité, elle veut se refaire. Donc, elle te juge. Elle te dit, bon, toi, t'es le genre de client qui a pas trop d'argent. Moi, t'offrir un 5 000 pour t'attirer, mais je vais te charger 1% plus cher peut-être sur ton prêt hypothécaire sur 5 ans, sur ton prêt de 300-400 000, tu n'y verras que du feu. Mais la réalité, c'est que si vous recevez de l'argent tout de suite, vous en payez plus vraiment plus tard. Et si jamais vous quittez la banque avant la fin du terme, c'est-à-dire que vous dites « je casse mon prêt hypothécaire parce que je rembourse, parce que je me sépare ou je vends ou je m'en vais ailleurs », la banque va dire « non. Quand je t'ai donné 3-4-5 000 $ au début, là, c'est comme de l'intérêt que tu allais me payer que je te remboursais d'avance. Et moi, je l'amortissais sur ta durée de vie avec nous et je voyais ça comme un coût d'acquisition de client en soustraction de nos revenus d'intérêt avec toi. Mais si tu t'en vas avant, tu me dois soit la totalité de la remise ou une partie de la remise au prorata de ce que tu m'as remis. Et donc, si votre banque vous fait un cadeau proche du 14 février, c'est pas de la Saint-Valentin, c'est de l'attachement, Paul. C'est qu'elle veut vous attacher pour plus longtemps et vous offrir un taux plus élevé. Donc, si vous signez 3%, dites-vous qu'il y a des gens qui signent 1,5, 1,6% avec le même terme, sans remise.
Salut, bon week-end. 7h22.